18h, c'est l'heure du journal. Présenté donc par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Remaniement sans coup d'éclat, Emmanuel Macron a choisi François de Rugy, un politique pour succéder à Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique, et Roxana Maracineanu, une sportive, pour remplacer Laura Flessel au sport. De quels moyens disposeront les nouveaux ministres? La question est posée avec insistance, les défenseurs de l'environnement sont globalement déçus. Quant à la réforme du prélèvement à la source, on ne sait pas encore si elle est maintenue, reportée ou annulée. On devrait le savoir ce soir. Nous parlerons aussi de la Syrie, car l'aviation russe a repris ses raids aériens contre la province d'Idlib. Et nous reviendrons sur la crise monétaire que traverse l'Argentine. Elle demande au FMI une accélération du programme d'aide dont elle bénéficie. La cérémonie de passation de pouvoir est en cours au ministère de la Transition écologique et solidaire. Nicolas Hulot passe officiellement le flambeau à François de Rugy au ministère. Après une semaine de suspense, Emmanuel Macron n'a pas sorti de son chapeau une personnalité surprise. Bonsoir Alexandra Dubucheron.
Bonsoir.
Ces derniers jours, les noms de Daniel Cohn-Bendit, de Pascal Canfin et de Laurence Tubiana avaient été cités. Le chef de l'État a finalement choisi le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, un écologiste certes, mais surtout quelqu'un sur qui il peut compter.
Oui, voilà un ministre totalement Macron compatible. Avec lui, il ne devrait pas y avoir de passe d'armes, pas de désillusion à la Hulot. D'ailleurs, ce soir, dans un communiqué, la Fédération nationale des chasseurs salue cette nomination. Les chasseurs, cela avait été la goutte d'eau de trop pour l'ancien animateur télé. François de Rugy, ce n'est donc pas un choix d'audace, mais plutôt de raison. À 44 ans, voilà un modéré pragmatique, travailleur, peu charismatique, diront certains. Il reste tout de même la caution écolo du gouvernement, puisque le député de Loire-Atlantique, proche de Jean-Marc Ayrault à Nantes, a fait toutes ses classes chez les écologistes, Génération Écologie à 18 ans, puis les Verts, Europe Écologie Les Verts. En 2015, c'est la scission. Il dénonce le virage gauchiste de son parti et fonde le sien, baptisé écologiste. L'année suivante, il rejoint le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Enfin, il n'est pas un parfait inconnu non plus, puisqu'il était jusqu'à présent président de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, quatrième personnage de l'État. Il a aussi fait parler de lui après sa défaite à la primaire du PS et de ses alliés l'an dernier, rejoignant Emmanuel Macron au détriment du socialiste Benoît Hamon. « Je préfère la cohérence à l'obéissance », expliquait alors le transfuge, partisan d'une ligne sociale libérale. Sa devise, l'écolonomie, l'écologie comme premier facteur de relance économique.
On ne peut pas dire que la nomination de François de Rugy déclenche un grand enthousiasme. Après la démission de Nicolas Hulot, les défenseurs de l'environnement s'étaient fortement mobilisés pour faire entendre leurs revendications et souligner la nécessité de combattre sans attendre le réchauffement climatique. Ce soir, Véronique Rebérotte, ils émettent des doutes sur la capacité de François de Rugy à faire bouger les lignes et à porter un vrai projet de transition écologique.
Oui, si tôt l'annonce de la démission de Nicolas Hulot, le Premier ministre Édouard Philippe disait vouloir lui trouver un remplaçant qui garderait le cap. C'est exactement ce que redoutaient les ONG, les associations environnementales espéraient au contraire un électrochoc, une remise en cause de la part du gouvernement qui aurait entendu le désespoir de Hulot et passerait enfin à l'offensive. Pas sûr pour Jean-François Julliard, directeur du Greenpeace, que François de Rugy, qui se dit lui-même pragmatique, soit l'homme de la situation.
C'est là que le risque est grand, parce que pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la réelle politique et appliquer les mesures portées par le gouvernement jusque-là? Est-ce que ça veut dire réussir à faire des efforts pour convaincre le gouvernement d'aller plus loin? On sait ce que ça veut dire souvent, pragmatique. Ça veut dire qu'on va rester sur l'existant, qu'on va continuer comme avant. Donc on va continuer, notamment dans le domaine énergétique, mais ça vaut pour la question de la transformation du monde agricole, ça vaut pour la transformation du secteur des transports. On va finir par prendre des mesurettes et on va appeler ça du pragmatisme. S'il s'agit simplement de dire on va reporter l'échéance de réduction du nucléaire de 5 ans ou de 10 ans, il y a un non, ça ne nous convient pas, parce que ça veut dire que ce n'est pas du pragmatisme, ce sont des mesures qui consistent à continuer comme aujourd'hui.
Pour Jean-François Balin, le président du syndicat des énergies renouvelables, François de Rugy est assurément un bon choix. Les positions du nouveau ministre de l'écologie, plutôt en faveur de la sortie du nucléaire, vont dans le bon sens à condition qu'il réussisse là où Hulot a échoué, gagner des arbitrages face au lobby. Jean-Louis Balin.
La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si François de Rugy aura le poids suffisant pour surmonter l'opposition de certains lobbies. Et ces lobbies, ça peut aussi bien être le lobby nucléaire que celui des énergies fossiles. Il a toutes les qualités pour réussir. Maintenant, il faudra voir quel poids il aura dans le gouvernement. Donc il faut espérer que le gouvernement Édouard Philippe et Emmanuel Macron auront tiré les bonnes conclusions du coup d'éclat de Nicolas Hulot, donc de sa démission, pourquoi il est parti. Et il faut espérer donc que François de Rugy pourra profiter de l'effet de la démission de Nicolas Hulot.
Alors, beaucoup de réactions pour dire aussi que François de Rugy est une personnalité incontestablement écolo, mais aussi membre éminent de la Macronie, comme l'écrit le député Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot sur Twitter. Trop discipliné, quand d'autres l'espèrent capable peut-être aussi de faire bouger la majorité présidentielle en tant que personnalité de premier plan de La République En Marche vers plus d'écologie, pourquoi pas.
François de Rugy pourrait faire un heureux en quittant la présidence de l'Assemblée nationale, car Richard Ferrand, le chef de file des députés La République En Marche, convoite le poste. Il est favori, mais pas le seul sur les rangs. Yaël Braun-Pivet, qui s'est fait remarquer à la tête de la commission des lois à la faveur de l'affaire Benalla, est également candidate. Et les prétendants de la majorité ont jusqu'à demain pour se faire connaître. Le résultat final aura lieu le 12 septembre. En attendant, c'est une femme qui assure l'intérim au perchoir, Carole Bureau-Bonnard, vice-présidente de La République En Marche de l'Assemblée. Le remaniement du jour concerne également le ministère des Sports, puisque Laura Flessel a elle aussi annoncé sa démission. La championne olympique d'escrime a simplement indiqué qu'elle partait pour raisons personnelles. Mais je reviens vers vous, Alexandra Dubouchereau, ces raisons personnelles seraient liées à sa situation fiscale.
C'est en tout cas ce que révèle le site Mediapart et le Canard Enchaîné. Cet après-midi, en cause, une société de droit à l'image, Flessel & Co, détenue par Laura Flessel et son mari. Selon nos confrères, en menant un contrôle de routine pour des membres du gouvernement, le fisc a découvert que des dizaines de milliers d'euros d'impôts n'ont pas été payés. La commission des infractions fiscales de Bercy a été saisie en vue d'une possible plainte pénale pour fraude. Selon l'entourage de la double championne olympique contactée par Mediapart, ce dossier n'a rien à voir avec sa démission et Laura Flessel n'a commis aucun manquement à titre personnel.
Laura Flessel qui semblait par ailleurs fragilisée, de plus en plus contestée dans le monde du sport où on lui reprochait de ne pas avoir obtenu un budget à la hauteur de ses ambitions. C'est une autre sportive qui lui succède, Alexandra, la nageuse Roxana Maracineanu, elle aussi médaillée olympique.
Elle a décroché l'argent au JO de Sydney en 2000 après être devenue la première française championne du monde de natation. À 43 ans, Roxana Maracineanu devient d'ailleurs la première nageuse nommée ministre des Sports. Depuis 2 mois, elle était en charge d'une mission gouvernementale de formation à la nage à l'école et elle enseignait aussi la natation à l'école polytechnique. Mais les bassins ne sont pas toute sa vie. Née en Roumanie, arrivée en France à 8 ans, fuyant le régime de Ceausescu, elle est également polyglotte, diplômée de l'école de commerce ESCP Europe, consultante pour la radio et la télévision. Et pendant 5 ans, elle a été conseillère régionale socialiste d'Île-de-France. Une fille engagée qui a des idées, résume le président du Comité national olympique et sportif, Denis Masseglia, ce soir, même s'il dit attendre de voir, parce que plusieurs dossiers brûlants l'attendent, et notamment, vous l'avez dit, le budget alloué au sport en baisse continue, sujet de crispation, surtout à 6 ans des Jeux olympiques à Paris.
Alexandra Dubouchereau. Alors, ce remaniement va-t-il relancer Emmanuel Macron, dont la cote de popularité est en baisse? On n'en a pas l'impression ce soir, Stéphane Robert, puisque ces nominations ressemblent plus, dans un cas comme dans l'autre, à des solutions de secours plutôt qu'à de véritables choix.
Oui, ces nominations n'apparaissent pas vraiment comme une reprise en main par Emmanuel Macron d'une situation qui semble continuer à lui échapper. D'abord, parce qu'il n'a pas choisi de procéder à ce remaniement. La démission de Nicolas Hulot a été une surprise, il a fallu parer au plus pressé. Et pour Laura Flessel, si les informations du Canard Enchaîné et de Mediapart se confirment concernant ses ennuis avec le fisc, même chose, il apparaîtra là encore que cette démission s'imposait à Emmanuel Macron et donc qu'encore une fois il subit, il n'est plus le maître des horloges qu'il prétendait être en début de mandat. Même chose, vous l'évoquez pour le choix des remplaçants. Après la démission de Nicolas Hulot, on sait qu'il y a eu des discussions avec Daniel Cohn-Bendit qui a décliné, avec l'ex-ministre et actuel directeur de l'association environnementale WWF France, Pascal Canfin, lui aussi a indiqué ce matin via Twitter qu'il ne serait pas ministre. Et donc, plutôt que se tourner vers une personnalité de la société civile, Emmanuel Macron a choisi quelqu'un avec un profil beaucoup plus politique, François de Rugy, qui doit son ascension tout en haut du perchoir à l'Assemblée nationale au fait qu'il a soutenu très tôt Emmanuel Macron, début 2017. Dès lors, même s'il est issu des rangs écologistes, cette nomination apparaît plus comme une récompense que comme un gage donné à la défense de la cause environnementale. Quant à Roxana Maracineanu au ministère des Sports, elle a un peu le même profil que Laura Flessel, mais elle est beaucoup moins connue, ce qui donne le sentiment qu'en matière d'ambition, on redescend d'un cran. L'avantage pour le président de la République est que ce seront 2 soldats du macronisme très fidèles, très dociles, en particulier François de Rugy en comparaison avec Nicolas Hulot. L'inconvénient, c'est qu'on a le sentiment qu'Emmanuel Macron subit, donc encore une fois, qu'il met de côté ses ambitions, notamment en matière d'environnement, et qu'il place autour de lui des fidèles dans une sorte de reniement des promesses initiales du macronisme.
Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction de France Culture. On doit savoir avant la fin de la journée ce que va devenir la réforme du prélèvement à la source. Sera-t-elle maintenue, reportée, enterrée ? Avant de trancher, le président a discuté ce matin à l'Élysée avec le Premier ministre Édouard Philippe et avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, la discussion a été intense. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir Aurélie.
Depuis que le chef de l'État a fait part de ses doutes jeudi dernier, on a eu le temps d'entendre tous les points de vue, ceux qui défendent la réforme, ceux qui la redoutent, ceux qui estiment que compte tenu des efforts déjà engagés, il est maintenant un peu tard pour reculer. Une chose est sûre, quelle que soit la décision, il y aura des mécontents ce soir.
Oui, forcément, quand bien même le gouvernement a lancé une large campagne de communication, et même si a priori il a derrière lui, sur la foi des sondages, quelques 60% de Français, une majorité qui serait convaincue de l'opportunité de passer au prélèvement à la source. Sauf que cela ne fait pas pour autant une foule d'adhérents acquise à la cause du prélèvement, car ce n'est qu'une minorité de Français qui sont imposés, 43% des foyers fiscaux, et que sur ce nombre, les deux tiers sont déjà mensualisés. Autrement dit, pour eux, eh bien, l'impact ne sera pas aussi fort que ceux qui ne le sont pas, ils versent déjà l'impôt sur 10 mois. En revanche, ils sont fondés à avoir des doutes sur la fiabilité de la réforme après les multiples mises en garde des représentants patronaux, MEDEF comme CPME, Union Artisanale, qui ont renchéri depuis des mois pour dire « ce n'est pas notre rôle de nous transformer en collecteurs d'impôts, ça nous coûte en nouveaux logiciels, en honoraires de comptabilité, en temps de travail aussi, et que gagne-t-on à le faire ? On n'est pas assuré que tout se passera bien, dans ce cas, on risque même de se retrouver en contentieux avec l'administration. » Mouvement d'humeur excessive tempère les partisans de la réforme qui savent aussi qu'ils vont rencontrer de toute façon un mur d'opposants s'ils renonçaient. C'est qu'ils ne manquent pas de voix pour dire qu'il serait en effet trop tard pour faire marche arrière, qu'il faudrait trouver une forme d'indemnisation pour les entreprises qui se sont préparées au changement. Impression donc de confusion, la marge de manœuvre à l'évidence est fort réduite.
Jean-Marc Chardon, décision imminente donc, sans doute à 20h. Le Premier ministre Édouard Philippe est invité ce soir dans le journal de TF1. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie appelle à éviter un bain de sang à Idlib. Staffan de Mistura demande aux présidents russes et turcs de se parler en urgence au téléphone, alors que le pouvoir de Bachar el-Assad amasse des renforts aux abords de la province du nord-ouest du pays, dernier grand bastion insurgé en Syrie. Autre signe qu'une offensive se prépare, l'aviation russe a repris ses raids aériens contre Idlib, Eric Biegala.
Oui Aurélie, les bombardements aériens russes sur l'enclave d'Idlib avaient été pratiquement complètement stoppés cet été, à la mi-août. Ils ont repris ce matin, visant essentiellement les environs de la ville de Jishr al-Shukur, l'une des 3-4 véritables agglomérations que compte l'enclave d'Idlib au sud-ouest de celle-ci. Alors il s'agit peut-être là du début de l'offensive sur l'enclave, sur ce nid de terroristes, pour reprendre l'expression employée tout à l'heure par Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Mais ça n'a rien de certain. La zone de Jishr al-Shukur n'est pas directement sur une ligne de front qu'il faudrait enfoncer avec du bombardement aérien intensif en guise de préparation d'artillerie. Elle n'est pas non plus sur l'axe nord-sud, l'autoroute M5 qui traverse l'enclave, celle qui relie normalement Alep à Damas et qui demeure un objectif stratégique majeur de toute opération sur Idlib. En revanche, c'est bien depuis les environs de Jishr al-Shukur que depuis le printemps et particulièrement cet été, les brigades djihadistes comme Hayat Tahrir al-Sham et les autres envoient des drones construits sur place et armés de grenades ou de petites bombes pour tenter de bombarder la base russe de Meymim à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest. Certains de ces drones ont pu endommager un ou deux chasseurs russes il y a quelques mois. Mais aucune de ces récentes tentatives de bombardement, une quarantaine selon l'état-major russe quand même, aucune de ces tentatives n'a été couronnée de succès, tous les aéronefs rebelles ayant été repérés et abattus avant d'atteindre leurs objectifs. C'est probablement ces petites unités de lancement de drones que les Russes essaient aujourd'hui de réduire en frappant les environs de Jishr al-Shukur. Mais ce faisant, les avions russes bombardent aussi des zones rurales habitées par des civils. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 9 civils, dont 5 enfants, sont morts aujourd'hui dans ces bombardements.
Eric Biegala. Madrid change d'attitude vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Le gouvernement espagnol, dirigé par le socialiste Pedro Sanchez, annonce avoir paralysé la vente de 400 bombes de précision à Riyad. L'Espagne est le quatrième fournisseur d'armes de l'Arabie Saoudite. Le pays réagit à l'attaque lancée par Riyad contre le Yémen, attaque qui a provoqué la mort de 51 personnes, dont 40 enfants. Écoutez les précisions de Mathieu de Taillac à Madrid.
La vente par l'armée de terre était actée, le contrat avait été signé en 2015, les 9,2 millions d'euros avaient déjà été payés par Riyad, mais l'Espagne annule l'opération, elle remboursera l'Arabie Saoudite et ne lui livrera pas les 400 bombes de précision. Ce geste répond à l'engagement de Madrid de revoir toutes les ventes prévues depuis le bombardement du Yémen par l'Arabie Saoudite, qui a tué 51 personnes, dont 40 enfants, le mois dernier. Selon Amnesty International, l'Espagne a exporté 1,2 milliard d'euros d'équipements militaires à l'Arabie Saoudite entre 2015 et 2016, sans compter la vente de 5 corvettes pour 2 milliards. L'annulation de ces 400 bombes peut donc paraître symbolique, mais ce symbole est fort, car l'Espagne est le quatrième fournisseur mondial d'armes à l'Arabie Saoudite, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et l'Arabie Saoudite est le premier marché militaire de Madrid, hors Europe et hors OTAN. Après les pays scandinaves, après l'Allemagne, la Belgique ou encore le Canada, l'Espagne se rapproche donc de la liste des pays qui ont entièrement paralysé leur livraison d'armes à la coalition dirigée par Riyad. Elle répond ainsi à l'appel du Parlement européen de cesser de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, accusée de violer le droit international en bombardant régulièrement des hôpitaux, des marchés et des écoles.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Confrontée à l'effondrement de sa monnaie, l'Argentine frappe à la porte du FMI. Elle demande au Fonds monétaire international une accélération de son programme de stabilisation. Le ministre argentin de l'économie est en ce moment à Washington pour plaider la cause de son pays. En juin, le FMI avait attribué un prêt de 50 milliards de dollars sur 3 ans à l'Argentine, qui espère obtenir une accélération des versements. Par ailleurs, le président de centre droit, Mauricio Macri, a déjà annoncé hier un plan d'austérité pour réduire le déficit budgétaire de la troisième économie d'Amérique. Les difficultés font redouter aux Argentins une réédition de la terrible crise de 2001. Mais pour Carlos Kenan, professeur d'économie à la Sorbonne Nouvelle et vice-président de l'Institut des Amériques, une comparaison comme celle-là n'est pas judicieuse aujourd'hui.
À cette époque-là, il y avait un degré d'endettement extérieur beaucoup plus important, d'endettement extérieur et d'endettement public. Et d'autre part, à cette époque-là également, il y avait un problème très particulier de l'économie argentine. Il y avait un régime monétaire dit de convertibilité et qui faisait que, bon, un peso était égal à un dollar. Il y avait une grande rigidité du taux d'échange et du régime de change lui-même, parce que le gouvernement était obligé de respecter un certain nombre de règles de création monétaire très strictes. Or, ce n'est pas la même situation maintenant. Donc, je dirais que la situation en termes de contraintes et de déséquilibre est moins compliquée qu'à cette époque-là. Néanmoins, il y a une dépendance de l'Argentine à l'égard des financements extérieurs. Il faut qu'elle assure, n'est-ce pas, les financements des déficits de l'année 2019 et donc un impératif qui va avoir des effets, évidemment, sur le plan social et voire politique, de réduire le déficit budgétaire. Dans les négociations en cours actuellement, le gouvernement sera un peu plus dur en termes d'objectifs qu'il va proposer au Fonds monétaire, avançant l'idée qu'il y aura un déficit public zéro l'année prochaine. C'est pour ça que, disons, ils rétablissent également des taxes sur les exportations pour essayer d'augmenter un peu les recettes sur le plan budgétaire. Et enfin, il y a un ingrédient à ne pas négliger, l'élection législative et surtout présidentielle qui aura lieu en octobre de l'année prochaine, donc dans un an. Et donc, ça pèse aussi sur l'ensemble de la situation, c'est-à-dire qu'il voudrait, enfin le gouvernement actuel, que cette crise soit gérée au mieux pour arriver dans de bonnes conditions pour la réélection du président Macri. Donc, je dirais que non, on ne voit pas une réédition aussi dramatique que la situation de la crise de 2001, mais il va y avoir une forte récession.
Le professeur d'économie Carlos Kenan répondait à Marie Vienno. Un très puissant typhon balaie actuellement la région d'Osaka, la deuxième mégalopole japonaise, après avoir touché Shikoku, la plus petite des 4 îles japonaises. 6 personnes sont mortes, il y a également une centaine de blessés. Jebi, le 21e cyclone de la saison en Asie, est considéré comme le plus violent qui ait frappé le Japon depuis 25 ans. Les autorités ont donc adressé des consignes d'évacuation à plus d'1 million de personnes dans la région d'Osaka, où les dégâts matériels sont déjà importants. Les précisions du correspondant de RFI à Tokyo, Frédéric Charles.
Les rafales de vent du typhon Jebi ont atteint 220 km/h dans certains endroits de la région d'Osaka. Ces rafales ont causé plus de dégâts que les pluies torrentielles. Les vents ont encastré un pétrolier dans le tablier d'un pont conduisant à l'aéroport international d'Osaka. Les bourrasques ont projeté en l'air des dizaines de voitures garées dans un parking, brisé les vitres d'hôpitaux, jeté à la mer un camion roulant sur un pont, fait tourner à la seule force du vent une grande roue de 100 mètres. Plus 1 million de foyers se retrouvent sans électricité. Mais le nombre de victimes reste peu élevé, car les habitants des régions frappées par le typhon ont suivi les consignes d'évacuation des autorités. Plus d'un million d'entre eux ont quitté leur logement pour rejoindre des refuges.
Frédéric Charles, notre correspondant au Japon. Demain mercredi, les nuages vont gagner du terrain sur l'Hexagone. Il pleuvra demain matin près de la Manche et de la frontière belge. De la Lorraine à la Bourgogne, c'est l'après-midi que les nuages se développeront et donneront des averses. Ailleurs, la journée sera le plus souvent ensoleillée, exception faite du sud de l'Aquitaine, des Pyrénées et des Alpes du Sud. Les températures minimales seront comprises entre 11 et 21 degrés. L'après-midi, il fera 18 à 29 sur la moitié nord, de 25 à 32 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.